Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode des folles aventures du cours de marketing à nom de code P101A. Au programme de ce fichier audio, bien la poursuite de ce dont nous avons déjà causé un tout petit peu en présentiel l'autre jour, à savoir principalement les rapports qu'il peut y avoir entre cette activité qu'on appelle le marketing et l'ensemble dans lequel elle s'inscrit, à savoir l'économie. Alors, préambule d'abord, que j'ai l'habitude de faire dans ce cours spécifique marketing, c'est une info marketing. Et donc, il faut savoir que c'est un secteur qui est assez bouillant en termes d'activité et d'infos. Et donc, chaque semaine, en réalité, il y a toujours des choses à raconter. Elles sont parfois heureuses, parfois malheureuses d'ailleurs. En l'occurrence, cette semaine, l'info que je voulais partager avec vous est plutôt triste, puisqu'elle marque le début de la fin, ou la fin annoncée, si vous voulez, d'une marque un peu iconique, hein, quand même, comme on dit, que si vous la connaissez peut-être un peu moins que vos parents ou grands-parents, a quand même fait les belles heures du marketing et des techniques de vente. Je parle de Tupperware. Tupperware, bah, vous ouvrez l'armoire de la cuisine et il y a quand même de fortes chances que vous tombiez sur l'un ou l'autre bol hermétique en polyéthylène, à savoir cette invention née à la fin des années 40, hein, donc au lendemain de la guerre en fait en 1946. Bon, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, donc ça a été une marque tout à fait innovante, hein, vous savez, donc innovante en fait à deux titres. Tout d'abord pour le produit en lui-même, le polyéthylène donc en l'occurrence, qui a permis de passer d'une conservation assez médiocre des produits à une excellente conservation des produits, sans compter que vous pouviez glisser ce matériau au four. Donc c'était vraiment une innovation technique. Et puis la seule chose, c'est que ça a révolutionné évidemment la manière de distribuer le produit. Donc rappelez-vous, on a causé un tout petit peu des 4P lorsqu'on s'est rencontré pour la première fois. Et dans ces 4 P, il y a le P de place, hein. Et là, Tupperware occupe une place à part, donc c'est d'ailleurs prévu que je vous en parle beaucoup plus abondamment plus tard dans l'année, donc je ne vais pas spoiler ce chapitre-là, mais voilà, donc c'était clairement une marque qui innovait à l'époque, et puis bon, progressivement, les années passant, son lustre s'est un peu éteint, et aujourd'hui la voilà en protection judiciaire, donc ça veut dire qu'elle est criblée de dettes, hein, plus de 700 millions de dollars, si j'ai bien lu, et donc elle cherche un repreneur. Bon, alors tout ça, c'est ça veut dire que c'est pas encore la fin, mais chercher un repreneur, qui voulez-vous rachète cet ex-fleuron de l'industrie. Il faut rappeler que les repreneurs, c'est un peu comme le cas d'Audi, hein, pour l'instant, dont qui fait l'actualité, vous êtes probablement au courant. Les patrons de la marque allemande cherchent à revendre l'outil. Encore faut-il qu'il y ait un amateur, hein. C'est le cas pour Tupperware, donc vous vous doutez bien que si une marque parvient plus à vendre ses produits depuis belle lurette, le racheteur, comment il va faire? Donc de toute façon, il va devoir commencer par épurer les dettes. Donc il va devoir commencer par sortir de sa poche 700 millions de dollars. Et puis après, il va voir ce qu'il peut faire avec l'outil qu'il a à sa disposition. Très souvent, quand il y a reprise d'une activité dans ce genre de cas similaire, ça s'accompagne malheureusement d'un bain de sang social quand même assez. Donc on vire quand même une bonne partie des gens et puis on recentre complètement l'activité, c'est un peu logique, hein, puisque ça ne marchait pas. Donc voilà, bon, c'est triste, c'est pas la seule mauvaise nouvelle qu'il y a eu d'ailleurs ces derniers jours, même ces derniers mois d'ailleurs, hein, il y a eu aussi le cas de Caddy, le chariot de magasin, et là c'est carrément la faillite, hein, donc la clé sous la porte, mais ça faisait déjà 3-4 ans que la marque n'était pas non plus en grande forme. Donc voilà pour l'info marketing. Alors, Pour rentrer dans le vif du sujet du cours, laissez-moi d'abord vérifier que cet enregistrement se passe bien. Donc, il se passe en mode complètement improvisé. Hein. Donc, j'ai d'ailleurs un gros problème avec GarageBand au niveau de la durée de mes pistes. Et donc, je me suis rabattu sur une autre plateforme beaucoup moins développée. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va fonctionner. Petit préambule supplémentaire avant de revenir sur le cœur de la matière. Je rappelle que donc, vous avez ce fichier à votre disposition. Vous avez également la version imprimée et plus développée qui se trouve sur Connected. Je vous ai envoyé une petite notification sur Teams. Elle est agrémentée de sources visuelles qui peuvent être fixes ou animées. J'ai l'habitude d'ajouter 2-3 vidéos qui explique un point particulier de la matière qui est évoquée ce jour précis. Pour le reste, je rappelle que je suis disponible aux heures inscrites dans votre horaire pour répondre à vos éventuelles questions. On en a touché un mot également l'autre jour. C'est comme ça que ça se passe. Alors, à vous de trouver la bonne combo hein, ou le bon combo, hein, c'est masculin ou féminin, ça dépend, entre le fichier audio. Et le PDF et le reste, je vous laisse évidemment trouver la bonne formule. Alors là, c'est bon, j'arrive au cœur de la matière. On va donc rappeler quelques points. Donc, je ne vais pas suivre page par page précisément le PDF à votre disposition. Je vais simplement rappeler des points importants qu'il faut savoir et bien sûr dans le cadre de ce qui se trouve dans cet épisode 1, vous avez votre disposition en version imprimée. Alors, je rappelle simplement d'abord que le marketing, c'est un ensemble de stratégies, d'outils, de techniques, aussi diverses que variées, qui, quoi qu'il en soit, ont tout un et unique objectif, qui est très court d'ailleurs. Hein, le mot est court en français, il est encore plus court en anglais. Vendre, to buy en anglais. Donc là, au moins, c'est clair, il n'y a pas anguille sous roche. Comme on disait avant, c'est affirmé, tout le monde le sait, hein, on n'est pas en train de cacher les choses. Là, pour le coup, le marketing est assez franc. On veut vendre quelque chose et donc on va tout mettre en place pour parvenir à atteindre cet objectif. Et donc, c'est vrai que parfois, les techniques qui sont employées sont classiques, hein, et tout à fait défendables. Parfois, elles sont quand même un peu borderline. Mais quoi qu'il en soit, on ne nous enlèvera pas l'idée que les marques sont assez... Il faut faire gaffe aux qualificatifs, sournoises. Certains pourraient dire pernicieuses, vicieuses, malhonnêtes, hein, ceux qui détestent ça. Mais moi, je dirais plutôt sournoises. Après, je ne vais pas rentrer trop dans le débat maintenant parce que ce n'est pas l'objet, mais je vous assure qu'il n'y a pas que des mauvaises marques, donc que le marketing n'est pas qu'un monde de bandits. Hein, je voudrais pas que vous sortiez de ce cours en ayant cette idée-là. Par contre, je suis là pour vous ouvrir les yeux pour vous expliquer un peu les techniques que vous connaissez peut-être moins, puisque vous êtes ce qu'on appelle le grand public, en tout cas un segment du grand public. Et donc c'est vrai que bon, il y a des techniques qui sont parfois un peu limites. Mais néanmoins, il existe quand même de plus en plus de marques qui défendent des valeurs, je vous le garantis, tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. C'est pas nécessairement par gaieté de cœur, c'est parce que les marques, si elles veulent être profitables durant de nombreuses années, dans la durée, doivent être à l'écoute de leur auditeur, de leurs clients, des consommateurs dont les comportements changent. Et donc, dans un environnement aussi qui change avec des nouvelles priorités, de nouvelles générations arrivent, s'imposent, deviennent matures, et donc leurs priorités ne sont pas nécessairement celles de leurs prédécesseurs, et donc les marques doivent s'adapter à tout ça. Et aujourd'hui, par exemple, la prise en compte du climat, la volonté de ne plus mettre tout, de sacrifier tout pour le travail, ben voilà, c'est des choses que dont les marques, bon, les marques ne sont pas sourdes, hein, loin de là. Et donc, elles développent, elles se rendent compte qu'elles doivent de plus en plus être en phase avec leur clientèle. Néanmoins, malgré tout ça, elles poursuivent un objectif qui est bien sûr de vendre. Donc, vous avez compris qu'il fallait quand même être attentif à la manière dont elles s'occupaient de vous, hein. On en a déjà aussi touché un petit bout l'autre jour. Henry Ford résumait ça très bien dans cette phrase que vous voyez en grand en haut, vous avez vu, hein, avec son visage, son regard d'acier. Henry Ford, ben voilà cette phrase, tout le monde peut avoir la voiture de la couleur qu'il veut pour autant qu'elle soit noire. Donc, phrase complètement paradoxale, mais qui reflète assez bien encore l'esprit qu'il peut y avoir dans ce secteur du marketing, à savoir l'impression de donner aux consommateurs une liberté absolue, alors que cette liberté est complètement sous contrôle. Donc, vous n'êtes pas aussi libre que le sentiment que vous pouvez avoir. Voilà, c'est ça que, dit autrement, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, je rappelle que Sir Henry Ford était malgré tout un personnage très très important au niveau industriel. Je ne parle pas au niveau nécessairement marketing, quoique ça va parfois un peu de pair, mais quand même un personnage vraiment inventeur de la production en chaîne. Donc, avec lui, l'industrie automobile, pardon, est passée de l'artisanat à la production en série. C'est quand même pas rien. Bon, certains trouvent que c'est une vraie crapule, hein, parce que bon, alors là, c'est sa vie privée, mais on n'est pas au cours de délation, ni au cours d'histoire, mais c'était un antisémite reconnu. Et donc le personnage privé était parfois très 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 dur, pas très reluisant, mais reconnaissons-lui quand même malgré tout des innovations en termes de vision industrielle. Il ne vous aura pas échappé, pour terminer sur ce chapitre de Henry Ford, que un peu comme le logo Coca-Cola, ou même presque tout à fait comme le logo Coca-Cola, le logo Ford a très peu changé, et donc lui aussi est un logo calligraphié, hein, donc je trempe ma plume à profiler, comme on disait, dans l'encrier, et puis j'écris Ford, et donc avec des pleins et des déliés, et ça vous donne le logo qui est resté le même depuis toujours. Donc ça fait partie de ces petites catégories de marques avec un logo très puissant parce que inchangé depuis la nuit des temps, en tout cas depuis qu'il existe. Voilà, alors ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Alors deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, parce que je pense qu'il faut parfois prendre un peu de recul, et je vais au moment où je vous parle, essayer de retrouver le document que je vais vous mettre sur Connected. C'est le poids en réalité que représentent les marques dans l'économie, en fait. Parce que ça vaut quand même parfois la peine de s'arrêter un tout petit peu là-dessus. Vous avez, en tant que consommateur, nous avons, en tant que consommateur, une vision relativement neutre. On ne sait pas trop ce que ça représente. Alors, on a bien entendu à l'une ou l'autre occasion que les marques valait beaucoup d'argent, mais je pense qu'on ne s'imagine pas véritablement la masse et la manne financière que ça représente. Et donc, il faut savoir, bon, après, on ne va pas trop rentrer dans les chiffres, mais que les marques sont très puissantes. Donc, les marques valent très cher. Donc, ça pèse, si vous voulez, dans l'économie, au niveau des finances, au niveau des emplois, etc. Et donc, c'est vrai qu'entre le marketing et l'économie, puisque c'est de ça dont nous discutons aujourd'hui, il y a évidemment des liens qui sont très, très forts. Bien sûr, et c'est assez logique, hein, on est assez proche au niveau de l'activité, mais on est dans des chiffres qui sont parfois tout à fait ahurissants. Et donc, chaque année sort un ranking, un classement des marques les plus puissantes financièrement. Hein, donc, ce n'est pas un classement des marques les plus adorées ou des meilleures marques. Non, ce n'est pas ça. C'est ou des marques qui font le plus grand chiffre d'affaires. Ce n'est même pas ça. C'est les marques les plus puissantes. Et donc, on se base en fait sur leur capital boursier. Donc, ce qu'elles représentent en capital à la bourse. Donc, elles sont cotées en bourse. Hein, donc, c'est un certain nombre de marques. Pas toutes, hein, évidemment. Beaucoup de marques aussi décident de ne jamais rentrer en bourse, parce que alors on rentre dans une sorte de dynamique de recherche de profit et puis aussi de satisfaction des actionnaires, donc des gens qui ont acheté des actions de la marque et qui veulent évidemment avoir un retour sur dividende. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'est pas un cours d'économie, mais donc voilà, la valorisation boursière de marque, ce que je vais vous dire, c'est que ça concerne un certain nombre de grandes marques. Voilà. Et donc, on a chaque année droit au classement que j'ai devant les yeux, et c'est celui de 2023. Alors, je vous en touche un tout petit mot dans le PDF, mais ça concerne 2024. Puisqu'il y a eu un changement en tête, Microsoft est dorénavant la marque la plus puissante du monde, ce qui est bravo à elle, hein. C'était pas le cas avant, puisque avant, pendant très longtemps, c'est Apple qui a trusté le haut du podium. Et donc, ça représente évidemment des millions de dollars, c'est presque scandaleux, c'est beaucoup plus que les budgets de certains États, de même de pays mis ensemble, en fait, qui aimeraient bien avoir autant d'argent que l'argent qui dort dans les caisses de Apple, par exemple, hein, qui se fout complètement d'avoir une amende de la Commission européenne parce que voilà, c'était le cas encore il y a 2 jours, distorsion de concurrence, ou parce que Apple a surfacturé en fait les abonnements de ses clients sur d'autres plateformes musicales. Donc, si vous avez un iPhone et vous utilisez Spotify, eh bien Apple, s'embêter un peu plein les poches, tout ça pour essayer de privilégier sa propre plateforme musicale. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Enfin, malgré tout ça, bon, on a beau lui infliger des amendes, ça ne représente rien, les amendes, par rapport à son trésor de guerre. Et donc, voilà, les marques sont hyper puissantes. Elles sont, alors c'est intéressant de regarder, hein, je vous propose de le faire, de regarder un peu comment ça se passe. Donc, vous allez voir que dans ce classement, on voit les logos des marques. En fait, vous voyez essentiellement des marques américaines. Elles trustent la première place, et puis elles seront du début à la fin. Donc, il y a les 100 premières marques. C'est principalement des marques américaines. Alors évidemment, de temps en temps, régulièrement, vous voyez apparaître une marque asiatique, japonaise, coréenne, chinoise, ça risque pas, parce que là, on parle de démocratie ouverte, hein, il faut se baser sur des chiffres officiels, transparents. Bah, il y a des économies qui sont quand même championnes, pour ne pas dire comment ça se passe vraiment. Donc, c'est le cas de la Chine, hein, bien sûr, puisque je rappelle qu'en Chine, toutes les entreprises sont au service de l'État, ce qui n'est évidemment pas le cas dans la démocratie occidentale. Alors, vous avez les Asiatiques qui apparaissent de temps en temps, et bien sûr les Européens. Et donc, regardez un peu le classement. Donc, ben oui, en 2023, Apple, Microsoft, Amazon, Google, donc ça c'est les 4 premiers, puis Samsung, coréen, 6 Toyota, 7 le premier constructeur automobile européen, Mercedes, 8, on retombe, 8 et 9, on retombe sur deux grands classiques américains. Alors là, pour être classique, c'est classique, hein, Coca-Cola 8e et Nike 9e. Et pour terminer le top 10, le second constructeur européen, si ce n'était pas Mercedes, ça ne pouvait être que BMW, bien sûr. C'est intéressant aussi d'aller chercher dans les mêmes secteurs pour voir un peu comment ça se passe entre les leaders, les challengers. Et donc, si vous regardez par exemple Nike qui est 9e, si vous allez chercher l'équipementier sportif suivant, vous devez descendre assez bas, en fait, et sauf erreur de ma part, c'est Adidas qui est 42e, donc le gap est énorme, hein, entre 9 et 42. Donc il y a une marque qui est énormément, plus que sensiblement, énormément plus puissante que la deuxième. Donc vous imaginez les suivants. Donc après, il faut descendre, hein, pour voir un autre équipementier sportif. Je ne sais même pas lequel ça aurait pu être. Under Armour, peut-être, l'américain. Puma, peut-être. Je sais pas. Il faut regarder un tout petit peu. Mais voilà, donc assez intéressant. En tout cas, retenez que les marques, c'est quelque chose qui pèse très très lourd, évidemment, dans l'économie. Autre élément aussi sur lequel je voulais insister, c'est la pression publicitaire. Alors, je sais bien que je vous ai expliqué l'autre jour que la pub, c'était pas le marketing. Mais ce que je veux dire à travers la pression publicitaire, c'est que c'est une illustration de l'intensité de l'activité économique dont le marketing est un reflet, si vous voulez. Et c'est toujours quand même bien de se rappeler ces quelques quelques chiffres qui se trouvent donc dans votre PDF et qui vous montrent que vous êtes sollicité sans arrêt. Alors il y a plusieurs leçons à retenir de cette pression publicitaire et en particulier le premier et le dernier chiffre. 450, la moyenne des impulsions de marque ou d'organisation auxquelles vous êtes confronté par jour, c'est une grosse moyenne, à la louche, vraiment. Et puis, le dernier, savoir 3. Donc 3, c'est les élus, c'est le podium, c'est les 3 qui peuvent un jour ou l'autre se concrétiser, se transformer en acte d'achat ou autre chose. Donc, ce qui est important de retenir, c'est le différentiel. On peut aussi retenir qu'il y a énormément de... Donc 450, ça fait quand même beaucoup par jour, donc on peut se demander comment notre cerveau traite tout ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est le déchet, donc l'élimination ou le différentiel qu'il y a entre 450 et 3. Et pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Parce que ça veut dire que l'objectif des marques, ça, c'est de faire partie des 3. Et donc, pour faire partie des 3, vous imaginez un peu les efforts qu'elles doivent fournir pour en faire partie de ce trio-là. Et donc, c'est pas étonnant qu'on soit sollicité sans arrêt. Alors, bien sûr, on est sollicité par la pub, mais pas que. Hein. Donc, je pensais encore ce matin sur la route, là, je croisais des BMW, justement, on vient d'en parler, BMW. Alors, BMW, il est présent, mais quand vous croisez une voiture ou quand c'est déjà une impulsion de marque. Alors les BMW ils sont pas bêtes. Ça fait des décennies qu'en fait qu'à l'époque, bon alors maintenant les choses changent parce que les moteurs sont plus électriques que thermiques, mais avant, quand les moteurs étaient thermiques, bon, il y avait besoin d'un radiateur sur le devant de la carrosserie, et donc c'était cette partie un peu ouverte que vous avez en dessous du capot. Et donc BMW il y a très très longtemps a décidé de faire ça sous forme de double oreille, comme ça, un peu comme ça, un double oreille qui mais c'est de l'intelligence marketing. On n'a pas besoin de faire ça sous cette forme là sauf que à force d'être répété, et aujourd'hui encore les modèles, même quand ils sont électriques, continuent d'utiliser en guise de radiateur cette forme, cette double comment dire, c'est pas une boucle comme ça, une sorte de rectangle allongé vertical avec les bords très arrondis, ça fait un peu penser à une oreille si vous voulez. Et voilà, mais ça c'est du on appelle parfois en marketing le façading, et donc ça sert à rien, mais c'est c'est une BMW. Donc c'est toutes ces impulsions là qui vous sont comme ça envoyées au cerveau que vous devez trier, et ça fait beaucoup d'impulsions, et donc on est fort sollicité, donc on met en place des mécaniques évidemment pour ne pas péter un câble, évidemment. Voilà ce que je voulais dire sur la pression publicitaire, j'imagine que c'est clair, si ça ne l'est pas, vous me faites un petit coucou sur Teams. Alors, je continue dans la réflexion, et je vous parle d'un sujet qui me semble assez bien de nouveau illustrer ce rapport parfois ambigu, et ce lien assez étroit malgré tout qu'il peut y avoir entre marketing et économie. Donc j'ai bien expliqué dans le petit syllabus que le marketing n'est pas égal à l'économie, mais une expression de l'économie, si vous voulez, comme il y en a d'autres. Le sachet marketing, qui est un mode d'expression à nouveau, une forme de marketing, si vous voulez, illustre assez bien... la réalité aujourd'hui. Alors, le sachet marketing, bon, sachet comme un sachet, quoi, un sachet de frites, quoi. Hein. Le sachet marketing, c'est intéressant de s'y arrêter un tout petit peu parce qu'il part d'une bonne intention, mais en même temps, un peu comme dans la phrase d'Henry Ford, il y a quand même derrière un petit réflexe un peu embêtant et typique des marques quand même. Alors, je vous explique. Le sachet marketing, c'est cette idée de fractionner le conditionnement des produits. Le conditionnement d'un produit, c'est son emballage, si vous voulez. On reparlera plus tard dans le cours du packaging, bien évidemment, hein, puisque vous êtes en général assez sensibles, vous les jeunes, et pas que vous d'ailleurs, à l'emballage, au design d'un produit. Hein. Rappelez-vous, on a parlé de la boîte en en carton des ordinateurs Apple, des Macintosh. Bon, mais il n'y a pas. Voilà, donc, mais moi aussi, par contre, enfin, non, pas par contre, moi aussi, je suis assez sensible en fait à ça. Je prends toujours l'exemple du vin. Moi, par exemple, je reçois des copains chez moi, mais je ne suis pas du tout un amateur de vin. Et donc, je ne sais pas quels sont les. Je ne m'intéresse pas, en fait. Donc, un bon vin, oui, j'ai bien, je connais les basiques, mais voilà. Et donc, quand mes copains viennent à la maison, je choisis les bouteilles sur base de l'étiquette. Et à peu près rien que ça. Je prends beaucoup d'efforts à choisir une belle étiquette, ça, je peux vous le dire. Mais donc ça veut dire que je m'intéresse au contenant et je ne m'intéresse pas au contenu, ce qui est complètement aberrant en réalité. Eh bien, le rapport entre la forme et le fond, quelque part, c'est ridicule ce que je fais. Donc c'est débile et ça montre surtout bien la puissance du packaging. Et voilà, je ne dois pas être le seul, hein, ça doit être un peu le cas chez certains d'entre vous. On partagera peut-être à l'occasion certaines expériences qu'on a eues. Mais voilà, donc ça montre que c'est important aussi. Et donc, le conditionnement qui représente donc l'emballage, si vous voulez, eh bien, il peut être rigide ou il peut être souple. Et donc, en l'occurrence, si on parle d'ici du passage ou de la transition d'un emballage solide, rigide, à un emballage souple, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière tout ça, mais il faut quand même préciser que l'emballage solide, c'est parfois aussi du gaspillage, parce qu'il y a de l'air, et l'air, ça coûte de l'argent. Ben oui, ça coûte de l'argent, parce que quand vous avez un paquet de céréales dans une boîte en carton et qu'il y a un quart de la boîte qui est de l'air et que vous remplissez un camion, ben ça veut dire qu'il y a pas mal d'air dans le camion, donc beaucoup de gaspillage. Si vous aviez remplacé ces boîtes en carton rigide par des sachets souples, comme on le voit maintenant dans les rayons au niveau des Kellogg's, ben vous allez remplir et optimaliser le chargement de votre camion. Donc vous allez mettre beaucoup plus de céréales pour le même espace. Donc tout ça à l'heure où l'énergie coûte super cher, etc., où il faut faire gaffe à la durabilité, il faut pas trop d'émissions de gaz polluants, etc., ben, les marques, elles font gaffe à tout ça. Mais pour en revenir à la base du sachet marketing, l'idée, c'est que dans le monde, hein, je ne vous apprends rien, il y a des pays riches, dont fait partie la Belgique, il y a des pays pauvres, je sais pas, le Bangladesh, par exemple, et il y a ce qu'on appelle aussi des pays émergents. Alors, les pays émergents, c'est des pays qui ne sont plus tout à fait pauvres, donc ils sont de moins en moins pauvres, ou de plus en plus riches, si vous voulez, mais qui viennent quand même de loin. C'est très intéressant pour les marques, les pays émergents, parce que le pouvoir d'achat des habitants augmente. Mais néanmoins, il reste faible. Et donc, si on prend l'exemple par exemple, d'un tonnelet de poudre à lessiver, bah, chez nous, on ne réfléchit pas très très longtemps. On va à la grande surface et on achète pouaf, un truc de 5 kilos et ça nous coûte quand même vachement cher, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas donné, hein, la poudre à lessiver. Voilà. Là-bas, dans les pays émergents, ils ne savent pas se payer ces gros paquets rigides de 5 kilos. Et donc, on fractionne le conditionnement pour pouvoir être plus en phase avec le pouvoir d'achat des gens, ce qui en soi est tout à fait louable. Ok, merci les marques, vous faites attention à votre clientèle, c'est bien, c'est super. Et donc c'est vrai, cette famille pauvre du fin fond de l'Inde, bah, elle va acheter un sachet dans le commerce du coin là-bas, j'allais dire le paquis, mais si c'est un indien, ça peut être un paquis. Et donc il va acheter, bah, je sais pas moi, 500 grammes, 200 grammes de poudre à lessiver, et puis quand ces 200 grammes seront terminés, ils achèteront un autre sachet de 200 grammes. Ok, ça, parfait. Mais l'idée qu'il y a derrière est aussi un peu vicieuse en réalité, c'est que en faisant ça, la marque multiplie l'acte d'achat. Et donc, il y a une séquence qui est de plus en plus répétée. Et donc, le lien entre le consommateur et Ariel, par exemple, ou Tide, j'en sais rien, marque de produits de poudre à lessiver, ben, va être de plus en plus, va être relativement fréquent. Beaucoup plus fréquent que dans un pays occidentalisé où on achète une poudre à lessiver tous les 4 mois. Et ça, évidemment, c'est très intéressant pour les marques. Pourquoi? Ben, parce que dans la tête du consommateur, la marque s'inscrit. Voilà, elle prend sa place dans votre cerveau et évidemment, c'est difficile de l'en déloger. Et donc, c'est un peu ça aussi qu'il y a derrière ces stratégies. Il faut jamais l'oublier et il faut essayer d'ouvrir les yeux pour bien comprendre tout ça. Alors, pour être tout à fait complet par rapport à cette stratégie du sachet marketing, il faut savoir que ça ne vous aura probablement pas échappé, mais chez nous aussi, il y a du sachet marketing. On n'est pas un pays émergent, j'ai dit, on est un pays riche et pourtant on voit plein de sachets qui apparaissent dans les rayons. Oui, sauf que c'est pas parce que on a un pouvoir d'achat qui tout d'un coup s'est réduit. Non, c'est un truc de luxe, c'est une préoccupation de riche. C'est la durabilité, tout simplement. Donc ça revient au chargement optimal dans les camions. Et puis, oui, ça permet de réduire la quantité de fabrication d'emballage, tout simplement parce que, comme vous le savez, c'est un vrai désastre, bien sûr, les emballages et la manière de les récupérer, de les recycler, de les fabriquer aussi. Et donc, ça rejoint un peu la première info de secours, c'est que oui, Tupperware, il y a ça aussi dans les causes qui peuvent expliquer la situation dans laquelle est la marque aujourd'hui. Il y a bien sûr le changement de comportement des consommateurs, hein, l'e-commerce, bien sûr. Alors, quand vous êtes une marque qui joue beaucoup sur l'animation entre personnes à domicile, quand l'e-commerce débarque, c'est un peu compliqué. Et puis, bien sûr, l'autre raison qui explique au-delà des factures énergétiques qui ont explosé, etc. Mais ça, c'est le propre de toutes les marques et ça les a mises un peu toutes en difficulté. C'est bien sûr le bashing anti-plastique. Aujourd'hui, le plastique, c'est quand pas très bien vu, hein. C'est compliqué. C'est quand même un produit qui est directement dérivé du pétrole, hein, donc c'est quand même pas très brillant, quoi, hein. Donc, comme les énergies fossiles, c'est quelque chose qu'on essaye d'utiliser de moins en moins, ouais, le plastique, bof, quoi. Donc voilà. Alors, je vous ai mis également sur Connected pour compléter votre info quelques petits documents par rapport à une action publicitaire, une campagne de com qui a eu lieu vers 2017, je crois, et qui était tout à fait intéressante, qui rejoint un peu ce que je suis en train de vous dire, les préoccupations de durabilité, le plastique, etc. C'est la fameuse opération Trash Isles, les îles poubelles. C'était bien vu quand même de la part de cette ONG qui, au moment où les Nations Unies se retrouvaient en conclave annuel, là, symposium, à l'aide de pétitions signées par des centaines de milliers de personnes, demander la donc tout ce que je vous raconte est vrai, hein, demander la reconnaissance de ce qu'on a international, de ce qu'on appelle le septième continent. Alors c'est quoi le septième continent? Eh bien, en fait, c'est une organisation qui s'est dit, mais en fait, il y a plein de déchets de plastique dans les océans. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous ai mis des petits visuels là, dans votre PDF. Donc, vous avez des visuels de ces oiseaux des îles Midway. Je vous ai mis une petite vidéo également. C'est tout à fait triste, lamentable, révoltant, hein. C'est une vieille histoire. Ça date déjà de quelques années, hein, l'île Midway, qui n'était plus peuplée au fin fond du Pacifique, plus peuplée que par des cadavres d'oiseaux qui ne parvenaient plus à respirer, étaient morts parce que leur estomac était rempli de déchets plastiques et donc ils se nourrissaient de plastique. Et donc il y avait un photographe, hein, vous le voyez dans la vidéo, qui scalpel à la main ouvre les oiseaux et fait des photos qui ressemblent à des œuvres d'art. Donc voilà, donc ça c'est déjà dramatique. Et puis vous avez aussi cette rivière, là je sais, Drina, je pense qu'elle s'appelle cette rivière en Bosnie. Bosnie-Herzégovine, quel drôle de nom de pays, un pays assez récent, un pays compliqué. La Drina, alors là, vous avez une photo d'un mec qui est dans la Drina, jonché de déchets, mais c'est encore une photo très gentille en réalité, parce qu'il y a des photos bien plus trash que ça. Où en fait, après des pluies torrentielles, des déchets qui ont charrié, des déchets jusque dans la vallée et donc dans la rivière, en fait, vous remarquez même pas que c'est une rivière. Donc vous voyez pas l'eau, il y a que des déchets. Vous croyez que c'est un chemin bourré de déchets en réalité. C'est Inimaginable. Alors, c'est pas un truc des années 80, d'un an 2000, hein, c'est un truc des années 2020, hein, ce machin. Donc, c'est quand même incroyable. Alors, les Trash Island, c'est un peu un autre épisode. C'est cette idée que cet ONG s'est dit, tiens, on va rassembler, en fait, tous les déchets plastiques qui se trouvent dans les océans. On va les coller les uns aux autres et on va voir ce que ça fait comme superficie. Et donc, ils sont arrivés à un total qui dépasse la superficie de la France, 650 000 km², un truc du genre. Et donc, ils se sont dit, ben, on va transformer ça. Il faut absolument il faut que l'opinion publique soit, elle doit avoir des images en fait pour essayer de comprendre le risque et le danger dans lequel on est, auquel on est confronté. Et donc elle a créé cette idée d'un potentiel septième continent. Et donc s'il existait, il serait aussi grand que la France. Et donc elle a créé un passeport, un drapeau, de la monnaie et plein d'autres choses encore. Bon, évidemment tout ça n'a pas abouti, évidemment. Bien sûr, mais en tout cas, ça fait énormément de bruit et les gens se sont dit, ah oui, il faudrait quand même peut-être un tout petit peu qu'on bosse sur le plastique et qu'on essaie quand même d'éliminer. Donc aujourd'hui, hein, vous avez des bouchons attachables sur les bouteilles et des choses pareilles. C'est des petits gestes qui aident un tout petit peu. Bon, alors c'est loin d'être suffisant, mais c'est un peu tout ça. Donc ça, c'est des considérations qui aujourd'hui elles sont quand même bien dans l'air du temps et je vous l'assure, les marques en tiennent quand même un tout petit peu compte aussi. Mais voilà, retenez également de cette histoire de sachet marketing les idées et la manière dont les marques peuvent s'approprier aussi ce genre de choses. Je vais essayer d'aller de synthétiser ce qui suit. Je voudrais aussi là maintenant un peu recadrer quelques secteurs pour essayer que vous compreniez bien dans quelle pièce le marketing joue, si vous voulez. Et je crois qu'il y a des catégories, des choses qu'il faut rappeler. Alors, la première, je pense, segmentation qu'on doit faire, mais je vous l'ai déjà dit, c'est la segmentation entre secteur marchand et secteur non marchand. Okay? Donc, je rappelle qu'on parle d'organisation. Organisation, c'est un terme générique qui se divise entre marque, que si vous êtes dans le marchand, ou association, organisation non gouvernementale, par exemple, ONG, dans le secteur non marchand. Donc le non marchand pèse évidemment en matière financière, économique, beaucoup moins que le marchand. Hein, l'essentiel de l'activité économique relève du secteur marchand. Donc il y a un échange de marchandises. On reparlera plus tard dans l'année de capitalisme et de libéralisme d'ailleurs. Mais on ne va pas de nouveau trop s'avancer là-dessus parce que ben, le temps passe. Et donc, non marchand. Alors dans le secteur marchand qui représente donc l'essentiel des échanges, si vous voulez, entre manufacturier, industriel, fabricant et consommateur, vous avez principalement des produits ou des services. Des produits, une voiture c'est un produit, un salon c'est un produit, une assurance c'est un service. Okay? Et donc c'est pas la même chose. Bien évidemment, on ne communique pas la même chose, on ne fait pas, on développe pas les mêmes stratégies marketing selon qu'on a affaire à un produit ou à un service, mais on a encore beaucoup de temps pour parler de tout ça de manière bien plus détaillée, évidemment. Ici, je poursuis la segmentation, je vous assure qu'on peut aller très loin. Secteur marchand ou non marchand, secteur marchand, produit, service. Et donc, dans les produits, vous avez ce qu'on appelle principalement de nouveau les biens de grande consommation. Alors ça porte un nom en marketing, on appelle ça en anglais les FMCG, Fast Moving Consumer Goods. C'est l'essentiel des produits en réalité. Et donc là encore, vous le voyez dans votre document, il se subdivise entre durable, pas durable, semi-durable, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une première segmentation qu'il faut avoir bien bien en tête. D'un côté, il y a le marchand, d'un côté, il y a le non marchand. Détail, code faire votre document imprimé. L'autre segmentation qui est importante aussi, que vous connaissez peut-être un peu moins, en tout cas, il y en a une que vous connaissez beaucoup moins que l'autre, c'est le B2B versus, B2C. Alors celui que vous connaissez en principe, c'est le B2C, B2C, business to de consumer, ok, B2C. Donc de l'entreprise au consommateur. Donc c'est la filière essentiel, classique, traditionnel. Voilà, donc ça c'est évidemment, j'ai rien de neuf à dire là-dessus, mais c'est pas la seule. Donc il y en a plusieurs, mais essentiellement l'autre c'est la B2B, donc d'une entreprise à une entreprise, ou quand une entreprise s'adresse à une autre entreprise et pas au consommateur, au grand public si vous voulez. Alors vous vous dites peut-être, mais c'est quoi ce truc? Bah, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un festival, un petit festival régional. Je vais prendre Ingrock, par exemple, à Incourt, dans le Brabant wallon. C'est un petit festival sympa de musique. Je sais même pas s'il existe encore. Bah, il a peut-être, voilà, pour pouvoir organiser et payer les artistes qu'il reçoit. Je me demande si Stromae n'y avait pas été il y a quelques années. Bah, il faut payer leur cachet, donc il faut avoir de l'argent, donc il faut avoir des sponsors. Et pour les organisateurs de l'ASB, probablement Ingrock Festival va s'adresser à Coca-Cola, la SNCB, Proximus, Jupiler pour leur demander de mettre un peu la main au portefeuille pour pouvoir financer et parrainer d'une manière ou d'une autre le festival. Ben ça, c'est du B2B par exemple. Donc voilà, c'est assez simple. Ça représente pas grand-chose en quantité, mais ça représente quand même une bonne activité. Hein, donc faut pas croire que ça compte pour rien, loin de là. Donc voilà, c'est important de savoir ça aussi. Je continue avec une nuance à apporter en réalité. Donc vous verrez au fil de l'année que la nuance, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui est important dans tout ce qu'on développe comme argumentation. Alors il y a parfois des événements qui donnent l'impression d'être dans le non-marchand, mais qui en fait sont dans le marchand. Donc il faut faire un peu attention et tout n'est pas toujours aussi catégorisé qu'on pourrait le croire. Et un exemple qui me semble assez flagrant de ça, c'est ce qu'on appelle le marketing territorial. Les Français appelleront ça le marketing des territoires, s'ils aiment bien ça, le mot territoire, et on entend ça tout le temps chez nous, c'est un mot on n'utilise pas beaucoup ça. Donc le marketing territorial, donc c'est la communication qu'on peut faire autour d'un territoire. Chez nous, un territoire, c'est quoi? Ben, c'est une commune, c'est une province, c'est une région, ou c'est un pays. Alors attention, il peut y avoir des sous-divisions, si vous voulez. Donc moi, par exemple, j'habite Silly, qui se trouve dans la province de Hainaut, et donc la Hainaut se trouve en Wallonie, mais par contre, j'habite en Wallonie-Picarde. Donc la Wallonie-Picarde, en fait, ça n'existe pas au niveau juridique, ça n'a pas de statut, c'est uniquement touristique, mais ça, c'est du marketing territorial. Voilà. On a érigé la Wallonie. Donc les gens qui habitent là, ils disent même pas Wallonie-Picarde, hein, ils disent j'habite en Wapi, donc Wallonie-Picarde, et je peux vous dire qu'ils y mettent du budget, hein, pour avoir de la visibilité, de l'identité. Ben voilà, à côté vous avez aussi vous avez le Pays des Collines par ailleurs. Donc voilà, il peut y avoir des petits cas particuliers comme ça, mais quoi qu'il en soit, tout le monde connaît un peu et a eu affaire du marketing territorial. Donc je vous explique dans le document que le marketing territorial, ça, c'est très important pour les pouvoirs publics, bien sûr, car sans de nouveau vouloir faire un cours d'économie, vous savez que il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses et que donc il faut bien aller chercher l'argent quelque part. Alors, ben, on va le chercher dans les entreprises, on va le chercher chez les gens, et c'est principalement là qu'on va le trouver, puisque chez les autres autorités publiques, ben, il n'y en a plus beaucoup non plus. Eh bien, c'est bien pour ça que territoires développent du marketing lié à leur territoire. C'est parce que bah, il faut faire rentrer des sous dans les caisses, et donc elles vont s'adresser, pardon, à trois cibles en particulier. D'abord les touristes, bien sûr. Encore faut-il que votre région soit touriste compatible. C'est pas le cas partout, hein, donc il y a quand même des régions qui sont absolument pas chouettes à visiter, pas très sexy quoi, il n'y a pas de patrimoine, il y a peut-être un patrimoine industriel, mais bon, bof quoi. Donc voilà, c'est pas garanti, le succès n'est pas garanti. Donc les touristes, ça fait évidemment venir de l'argent, donc on développe beaucoup d'identité, de support de com et de stratégie marketing pour les faire venir. Il n'y a pas que, il y a vous. Il y a vos parents, il y a moi, et donc les habitants, c'est très important pour les communes. Donc il faut faire venir des habitants, mais là encore, il faut apporter de la nuance. Donc quoi, ça veut dire que je sacrifie mes paysages pour implanter des nouveaux quartiers résidentiels. Là, c'est une question de politique, évidemment. Donc ça, on rentre dans un autre domaine. Moi, par exemple, j'habite la commune de Silly. Il y a moins de 10 000 habitants dans cette commune. Il y a une dizaine de villages. C'est une commune qui est très attentif à ne pas trop devenir une cité dortoir de Bruxellois, même s'il y en a déjà, hein, j'en fais partie d'ailleurs, mais quand même, donc il faut, voilà, elle a envie de préserver sa qualité de commune rurale. Je rappelle qu'une commune campagnarde, le terme campagne, j'habite à la campagne, ça signifie quelque chose concrètement, hein, donc ça veut dire que c'est un rapport avec la densité de population. Vous êtes à la campagne quand la densité de population est inférieure à 150 habitants par kilomètre carré. Bingo, à Silly, c'est OK, on est à 120, un truc du genre. Voilà, je peux dire que je peux affirmer que j'habite la campagne. Voilà, en ville, évidemment, vous êtes, voilà, moi j'ai habité Anderlecht, et donc quand je suis arrivé à Silly, je me suis dit, tiens, je vais aller voir quelle était la densité de population à Anderlecht par rapport à l'endroit où je vis maintenant. Et je me rappelle plus très bien le chiffre, mais ce que je me rappelle, c'est ce dont je me rappelle, pardon, c'est le pourcentage, à savoir que là où j'habitais avant, à Anderlecht, il y avait, j'ai jamais oublié le chiffre, le pourcentage, 55% d'habitants de plus que là où je vis maintenant. Donc voilà, densité de population. Alors bon, voilà, à Silly, ils font un peu attention, donc ils n'ont pas envie en même temps que tous les jeunes s'en aillent, donc il faut trouver un équilibre. Le bâti, plus il vieillit, moins il est durable, plus il faut le rénover. Donc voilà, ça, c'est des questions, des considérations qui nous importent beaucoup moins, évidemment. Il faudrait qu'on reste focus sur ce qui nous occupe, le marketing. Mais sachez simplement que les habitants, bien sûr, ils payent des centimes additionnels, ils payent des taxes, et donc surtout, ils ont un avantage incroyable par rapport aux touristes, c'est que les touristes, ils viennent une fois. Peut-être deux, hein. Il y a des touristes, hein, qui adorent venir toujours au même endroit chaque année. Oui, ok, ça existe, mais il y en a quand même énormément aussi qui ne viennent qu'une fois. Ça, c'est pas le cas des habitants. Les habitants, une fois qu'ils sont là, ils restent quand même, pour la plupart d'entre eux, très très longtemps. Donc la fidélité dont je vous parlais tout à l'heure des marques, eh bien, on la retrouve aussi quand on parle de marketing territorial. Donc c'est la deuxième cible. Et la troisième cible, ce sont les entreprises. Alors, tiens, vous vous dites, mais enfin, des entreprises et des communes, c'est un peu bizarre. Ben, je vous invite quand même à ouvrir un tout petit peu les yeux et à regarder ce qui se passe sur les bords de vos communes, ce qu'on appelait avant les zonings industriels, qu'on appelle aujourd'hui beaucoup plus de manière sexy les zones d'activité économique, les zones d'activité. Non, ZAE, non, les parcs d'activités économiques, si je me souviens bien. Ouais, bon, bref, c'est plus sexy. Ben oui, parce que les entreprises, ben, quand elles s'installent, elles occupent de la surface, de la superficie, et que donc il y a des taxes communales et que ça fait rentrer des sous dans les caisses. Donc voilà, ça c'est évidemment une réalité aussi. Et aujourd'hui, ben oui, vous voyez, alors les Belges sont beaucoup plus en retard que les Français, hein. Les Français en matière de marketing territorial, c'est quand même vachement mieux que chez nous. Voilà, donc on commence à voir apparaître des logos, des positionnements, des identités, des campagnes d'activation. Voilà, c'est bien. Et c'est bien, ça donne de l'info aux gens et ça leur permet de choisir une destination plutôt qu'une autre. Voilà, alors je voudrais terminer cet enregistrement en vous montrant également et en vous parlant des excès que ce genre de situation peut produire, puisqu'on est en train de parler de marketing territorial. Vous êtes sans doute certains d'entre vous, une bonne partie d'entre vous, déjà allés à Barcelone avec Ryanair probablement ou en bus. Ça vous a coûté 5, 10, 15 euros, 20, 25 euros, enfin bref, rien du tout. Donc prix sacrifié pour aller vous reposer sur la plage à Barcelone. Boire un coup sur la Rambla, etc., etc. Ben, comme vous le savez, ça vous fait plaisir, ça fait beaucoup moins plaisir aux habitants locaux. Donc c'est le fameux phénomène du surtourisme. Et donc aujourd'hui, le surtourisme, on en a encore pas mal parlé cet été, parce que les Barcelonais en particulier en ont tellement marre du comportement. Alors moi, j'ai un fils qui vit un peu là-bas, qui va sans doute habiter là-bas, et donc il a, lui, perso, bon, alors c'est un Belge, il est plutôt discret, hein, les Belges sont plutôt, ils font pas trop de bruit, mais mais les Anglais, il y a même des campagnes, je ne vous mens pas, hein, je vous montrerai ça, il y a même des campagnes d'office du tourisme, de ville ou de pays, qui explicitement demandent aux Anglais de ne pas venir. Je vous mens pas. Et donc le surtourisme, c'est pénible, hein, véritablement aujourd'hui, parce qu'il faut essayer quand même d'atteindre un certain équilibre entre le plaisir d'être en vacances et le respect des gens qui parfois ont du mal à trouver du logement à cause des Airbnb en trop grand nombre, etc. Des tarifs qui ont explosé, de consommation, de resto, enfin, etc. Des trucs impayables. Donc c'est vraiment, voilà. Et donc cet été à Barcelone, les habitants ont jeté de l'eau. Voilà, si j'ai pas l'occasion de vous déposer ça cette fois-ci, ce sera la fois prochaine, ben, sur les touristes pour leur rappeler que ben, ils vivent aussi, qu'il s'agirait de les respecter peut-être un tout petit peu plus. Mais ce qui m'intéresse dans ce surtourisme, au-delà, bon, bien sûr, c'est un fléau, comme dirait l'autre, mais c'est que ça a fait naître un truc. Là, je me disais que jamais, quand même, je devrais parler de ça. Je suis dans un cours, je donne un cours de marketing, et en fait, aujourd'hui, il existe des stratégies de démarketing. Donc, je détricote, si vous voulez. Donc de anti-marketing, contre-marketing, le marketing à l'envers. Donc ça s'appelle démarketing. Et donc, aujourd'hui, on a des stratégies de démarketing. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ces stratégies de démarketing, elles sont spécifiquement développées dans ces destinations qui sont victimes du surtourisme. Démarketing, c'est donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, par exemple, on va arrêter de communiquer sur certaines destinations. La Rambla à Barcelone, on n'en dit plus un mot parce que c'est invivable. Et donc, par contre, on va communiquer sur d'autres destinations, donc des endroits en périphérie de la ville qui étaient un peu méconnus des gens. Hein, pas loin de Barcelone, il y a de la montagne, il y a des trucs très très chouettes. Là, on va communiquer là-dessus. Donc, on va dévier les gens pour éviter ce surtourisme. À tel point que parfois, les autorités vont supprimer la géolocalisation. Donc, les petits selfies sympas qu'on envoie direct sur les réseaux sociaux pour montrer où on est, ça va être terminé, quoi. Donc voilà, ça c'est du démarketing, c'est une réalité aujourd'hui, et ça vous montre un peu les tensions qui peuvent y avoir. Et je pense que tous les exemples là, dont on vient de causer maintenant, ben, je pense vous aident, je l'espère, à mieux comprendre le lien et les rapports quand même à la fois haine et passion, hein, c'est vrai, qui peut y avoir entre le marketing et l'économie dont le marketing fait partie, bien sûr. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce premier fichier audio qui a quand même duré un petit moment. Je m'en excuse déjà et je vous souhaite, quoi qu'il en soit, déjà un bon amusement. On se retrouve bientôt. Salut.